Les infos.
Les infos.
Les infos.
Les infos en impromptu sur Radio Transparence.
Rencontre avec Luc Dando. Luc Dando, ingénieur de formation résidente en Ariège, qui a décidé de prendre à bras le corps la question des rapports économiques que nous pouvons avoir et leur territorialité. Tout cela est un concept qui porte un nom, c'est l'éco-industrie locale. Ces trois mots sont tous importants lorsqu'ils sont dits ensemble dans les propos de Luc Dando, éco-industrie. Industrie locale pour repenser localement à la fois la construction, la demande et surtout lorsque l'on construit un objet, faire appel d'une à l'intelligence collective et de deux, réfléchir à l'impact réel qu'a sur le territoire la fabrication de cet objet en termes d'emploi, en termes de richesse produite, bref, relocaliser au maximum, c'est presque un credo. En tout cas, Luc Dando, il y croit, un collectif existe, il a même écrit un livre et nous explique son concept d'éco-industrie locale. On l'écoute.
Alors l'éco-industrie locale, d'abord il faut raisonner en termes de réseau, parce que ça n'est pas une entreprise. L'éco-industrie locale, c'est un réseau de structures de l'ESS, hein, donc plutôt des coopératives, des structures comme ça, qui vont s'articuler autour d'une charte de valeurs qui est partagée. Donc on va trouver des coopératives de production, des coopératives de consommation et des coopératives de distribution. Alors, dans les coopératives de production, ici l'objectif, c'est de fabriquer localement, sur nos territoires, les objets de notre quotidien, enfin une partie des objets de notre quotidien. Alors on va également, dans ces coopératives, fabriquer les outils de production, parce que c'est extrêmement important pour favoriser, si vous voulez, le maximum de valeur ajoutée sur le territoire, à la fois de faire les objets, mais aussi les machines, hein, parce que l'objectif étant de valoriser l'économie réelle sur le territoire. Hein. Alors on va veiller dans le concept à trouver un juste équilibre entre le travail de l'humain et le travail des machines, parce que l'objectif c'est quand même de faire travailler des gens. Et puis, donc évidemment, on va répondre à un certain nombre de critères qui font partie de la charte, des critères d'écologie, des critères humanistes, des critères de partage de valeur, etc. Donc ça, c'est pour les coopératives de production. Et l'idée aussi, c'est d'impliquer les consommateurs, les citoyens, dans le choix de ce que l'on va fabriquer, de ce qui est vraiment nécessaire, plutôt que d'être dans un modèle comme le modèle actuel, où une entreprise va imaginer un produit qui peut se vendre sur le marché, et s'il faut même forcer la clientèle par du matraquage publicitaire, etc., à acheter ce produit parce que ils ont trouvé qu'il y avait du résultat, de la marge à faire sur ces produits-là. Donc nous, on est plutôt dans qu'est-ce qui est vraiment utile aux citoyens comme objet là du quotidien. Et ces objets vont être également conçus avec une autre éthique, c'est-à-dire des objectifs de durabilité, de réparabilité, donc dans une idée de les produits qu'on avait autrefois, qui étaient réparables, qui duraient un siècle, il y en a des exemples, hein, donc un petit peu l'idée. Et puis aussi pour la distribution, parce que c'est important de maîtriser toute la chaîne de valeur. On peut pas, par exemple, dire on va fabriquer des produits éthiques et puis on va les laisser vendre par le commerce de grande distribution, parce qu'à ce moment-là, quelque part, on a une rupture de la chaîne de valeur. Donc, pour nous, dans les éco-industries locales, c'est important de maîtriser un maximum. Alors, on peut pas, évidemment, maîtriser tous les maillons de la chaîne productive, en particulier la matière première qu'on utilise, si possible, du recyclage, mais il faudra aussi qu'on achète dans les marchés habituels. Donc, voilà un petit peu les grandes lignes. Donc la distribution serait faite par à l'intérieur du réseau et ne passerait pas par les négoces habituels de revente, etc., qui ajoutent sur le prix, parce qu'effectivement, si on fait de la vente directe, on pourra se permettre d'être plus cher en production sans augmenter notablement le prix du produit fini pour le client.
Mais on a quand même du mal à imaginer. Le concept finalement est très joli, ça reste un concept. Comment est-ce que on peut appliquer ce mode-là, avec quel type d'objet, sur quel territoire? Enfin, j'imagine qu'il y a une multiplicité de réponses, et puis ça dépend aussi forcément des gens qui y sont et des savoir-faire qu'il y a sur les territoires.
Oui, alors là, il faut préciser aussi qu'on est vraiment en fonction d'une intelligence collective. C'est-à-dire que le concept des éco-industries locales, c'est pas un concept qui est figé. Bon, c'est suite effectivement au livre que j'ai écrit vers une éco-industrie locale, édité chez Yves Michel, hein, sorti en septembre 2014. Mais avant tout, l'idée, c'est qu'on est dans de la réappropriation citoyenne, de fonctionner en collectif et de fonctionner en intelligence collective. Donc, par exemple, là, sur Toulouse, on a constitué un collectif aujourd'hui d'une dizaine de personnes où ensemble, on réfléchit à la manière de mettre en application sur nos territoires ce concept-là. Et donc, bah, ça va être effectivement, il va y avoir des nuances entre un territoire et un autre parce qu'il y a différents savoir-faire. Et donc, c'est vraiment ouvert. C'est-à-dire, donc tous les gens sont invités à venir avec nous réfléchir et participer, puisque l'objectif, c'est bien que les citoyens se réapproprient sur les territoires ce secteur qui est extrêmement structurant de notre société. Ça, on le sait pas assez, que sont nos systèmes productifs. Donc le domaine est très vaste parce qu'effectivement c'est une démarche globale d'une autre forme de non seulement de productivité mais de société, d'organisation, parce que ça remet aussi en question où est-ce qu'on va prendre les financements, pour servir quelle valeur. Et donc c'est vraiment global comme démarche.
C'est ce que j'allais vous dire, finalement ça remet en cause même l'argent en lui-même, parce que l'industrie, quand elle n'est pas éco, elle mérite de faire vivre des familles d'ouvriers. Si on passe sur un système plus mutualiste, bah forcément on n'est plus dans cette démarche-là, et si on ne produit pas pour gagner de l'argent, bah on ne paye pas d'ouvriers, donc on est sur un autre mode complètement de vivre ensemble. C'est une nouvelle société que vous voulez nous inventer là, Luc Dando.
Mais c'est ce qu'on essaye, hein, pas moi tout seul, mais avec tous les collègues. Et puis on essaye d'inviter d'autres personnes à venir inventer ce nouveau modèle de société avec nous. Alors effectivement, se pose la question de l'argent, et la question surtout moi qui m'importe plus, c'est la valeur ajoutée, parce que bon, il faut comprendre que notre système économique, il est basé sur en partie, d'autres aussi, mais que l'argent est créé par la valeur ajoutée de notre système productif. Mais seulement dans notre système productif actuel, de modèle capitaliste, l'argent qui est dégagé par la valeur ajoutée des productions ne va pas profiter au plus grand nombre, mais à une minorité de financiers qui s'approprient malheureusement la plus grosse partie de ce qui peut être dégagé par cette production. Et donc l'idée, c'est bien là de veiller à ce que notre modèle économique, la valeur ajoutée dégagée par le fonctionnement de nos coopératives et son modèle économique favorise d'abord l'économie réelle et non pas l'économie virtuelle des marchés financiers, et en plus favorise l'économie circulaire sur le territoire. Alors effectivement, à terme, ça va ouvrir la question, on va être favorable à fonctionner avec des monnaies locales, dans la mesure où on peut s'approvisionner en monnaie locale et payer des gens aussi en monnaie locale. Donc ça fait partie des évolutions que visent les éco-industries locales dans leur mode de fonctionnement.
Avec aussi l'obligation finalement d'avoir une capacité de produire sur les territoires ici. On est à Alzin, chez vous, on a une vue magnifique, plein sud, voilà, les voisins sont un petit peu loin, et est-ce que vous avez, par exemple, sur votre territoire, fait le diagnostic ou l'inventaire, des savoir-faire qui peuvent être mobilisés, est-ce que finalement c'est suffisant? Est-ce que vous l'avez fait, ce travail-là?
Alors disons que l'approche est un peu différente, notre approche est assez en rupture, en ce sens que on prend le modèle actuel aujourd'hui d'une start-up qui se monte. Donc le principe d'une start-up, c'est quoi? On trouve un projet industriel, trouve un marché porteur et trouve des investisseurs qui vont mettre un gros paquet d'argent sur la table pour être tout de suite au top. Donc le principe start-up, c'est ça. Nous, on s'inscrit plutôt dans une construction de long terme, comme ce qui se pratiquait autrefois, c'est-à-dire par autofinancement. Et donc, notre objectif, c'est pas de faire une industrie qui va faire 1000 emplois l'année prochaine. Ça, on peut pas. Dans la mesure où on ne veut pas se financer sur les marchés financiers habituels, parce qu'on ne veut pas, si vous voulez, répondre à leurs attentes de valeur, enfin de résultats d'investissement, etc. Donc forcément, on va avoir des financements qui vont être beaucoup plus légers. Ça va être du crowdfunding, ça va être de l'autofinancement de nos propres productions. Et donc forcément, ben, on va démarrer plus lentement. Et en même temps, on sera aussi beaucoup plus résilient parce qu'on n'est plus dans un système productif où finalement, au départ, ben, tout l'appareil de production, il appartient au banquier parce qu'il y a des emprunts derrière, il n'est pas fini de rembourser. Donc le banquier a posé ses conditions de réserve de propriété, etc. Donc toutes ces conséquences de notre système actuel qui met les menottes aux entreprises qui ont pas d'autre choix que de rembourser les emprunts et voilà.
Mais d'un autre côté, votre modèle, il a aussi sa propre quadrature du cercle finalement. On va prendre l'exemple de vos voisins puisque j'en connais un qui fait des escaliers et des spatules en bois. Et là finalement vous vous retrouvez devant un nœud, c'est soit il développe sa production et il apprend et peut-être il mutualise pour faire d'autres objets en bois et se spécialise dans la production multiple de bois, soit il inonde le monde de ses spatules en bois pour permettre justement à Alzin, et on retourne dans le système finalement capitaliste.
Oui, là, donc, ça, là, donc là on se différencie très clairement par ça, parce que il faut que j'explique un petit peu cette histoire de... On n'est pas, c'est pas de l'artisanat, c'est-à-dire on va développer des outils entre guillemets industriels qui sont
éco-industrie, le mot industrie.
Voilà, éco-industrie, le mot industrie, il est quand même là, parce que de faire du produit artisanal, très peu de gens pourront l'acheter, c'est beaucoup trop cher. Nous, on va développer des technologies, des outils qui vont permettre de fabriquer quand même en série, mais par contre, les retombées, on les réserve à une équité entre toutes les parties prenantes et on va pas, la valeur ajoutée, c'est pas fait pour enrichir les financiers. Donc là, par exemple, dans l'éthique, nous on lance un produit exemple, un parapluie, hein, qui est éco-conçu, qui est réparable, des baleines en bambou, tissu naturel, manche en bois, etc. Donc on illustre parfaitement les valeurs d'éco-industrie locale dans ce produit. Et ce qu'on explique, c'est que c'est prévu pour être vendu sur le territoire pour l'instant Midi-Pyrénées et dans l'avenir même un territoire beaucoup plus restreint, parce que on se partage entre tous les territoires les secteurs de vente pour que justement on puisse faire bénéficier aux autres scopes d'éco-industrie locale qui vont être montés à Albi, qui vont être montés ailleurs. Et non seulement on va partager le marché, mais on va aussi mutualiser les machines qu'on aura développées ensemble.
Et les savoir-faire que vous aurez.
Et les savoir-faire. Donc on est complètement à l'opposé d'aujourd'hui de la logique de guerre, qu'est la concurrence dans l'industrie, dans les entreprises. Et nous, on cherche à construire un réseau où on va être dans une logique de partage et d'équité. Donc voilà un petit peu cette logique qui est complètement à l'opposé du système actuel.
Finalement, ce que vous êtes en train de dire, c'est revenir au système d'avant, à ces échanges locaux, voilà. Sauf que peut-être avant, si ça fonctionnait comme ça, c'était aussi parce que la configuration ne permettait pas de développer et pas par choix politique ou de société, et que vous voulez revenir à ce système-là par choix.
Voilà, effectivement. À l'époque, le commerce international se posait pas. Enfin, c'était pas une perspective envisageable.
Changer de vallée, c'était déjà pas mal. Hein.
Voilà, parce qu'il y avait l'énergie qui était pas là pour faire des transports à grande distance, parce qu'on disposait pas du numérique pour faire des échanges de communication aussi rapidement qu'on le fait aujourd'hui. Et donc, nous, aujourd'hui, on souhaite justement faire le choix, maintenant qu'on a ces moyens-là, de les utiliser pour servir des valeurs humanistes, écologiques et d'équité. Alors qu'aujourd'hui, les performances de l'informatique, d'Internet, etc., alors sont heureusement utilisées, je pense notamment à des réseaux d'échange, des réseaux sociaux qui peuvent mettre les gens en lien, mais ils sont aussi utilisés dans tous les sens, et aussi pour faire de la spéculation financière, des calculs de trading à grande vitesse qui ont des effets sur nos économies mondiales catastrophiques, hein, on le voit. Donc ces outils-là, ben, on peut les utiliser dans le sens qu'on veut, pour faire du bien à l'humanité ou pour faire du mal. Donc nous, on fait d'autres choix, quoi.
L'éco-industrie locale, est-ce qu'elle a déjà... des endroits où elle s'expérimente sur un plan pratique réel ou à l'heure actuelle, voilà, on en est encore à la théorie.
Alors on est un petit peu plus qu'à la théorie, parce que donc l'objectif de notre collectif, c'est bien de mettre en application le concept et de le faire évoluer, hein, avec les réflexions qu'on a entre nous. Et donc là, on a déjà nous sur Toulouse, autour de Toulouse, On mobilise, on doit avoir 300 ou 400 contacts, des gens qui sont venus nous voir sur nos stands à Alternatiba ou d'autres manifestations, à Tarascon aussi, avec Capessens qui organise des journées à Tarascon. Et on a d'abord, dans les objectifs, c'est de créer d'autres collectifs, d'abord pour mobiliser des contributeurs, des gens qui sont sensibles à cette éthique et qui veulent nous donner un coup de main. Et en faisant ça, si vous voulez, on fait de la diffusion du concept et en même temps, on mobilise une clientèle locale qui va permettre à ce système de se mettre en place. Et je dirais que la partie technique, c'est-à-dire de fabriquer des objets du quotidien, ça va venir dans un second temps. Parce qu'il faut d'abord semer les graines dans un terreau pour le rendre fertile sur les territoires, de gens qui comprennent le sens de tout ça et ce que ça peut servir. Il faut commencer par là. Donc on va très prochainement créer un collectif sur l'Ariège. On a prévu aussi, il y a l'étude d'en créer un du côté de Castres dans le cadre des ateliers, je ne sais plus comment le nom de ces ateliers là, coopératifs qui se montent sur Castres aussi. Il y a un projet aussi sur Ramonville. Donc notre collectif il va s'agrandir pour justement que des personnes s'occupent de mettre en place des collectifs dans différents territoires. Et en parallèlement, moi qui suis spécialiste des aspects techniques, puisque mon métier d'origine c'est l'ingénierie de production, parallèlement, je conçois et je fabrique dans mon atelier les petites machines qui vont permettre de fabriquer le parapluie et aussi d'autres produits qui vont être étudiés un petit peu plus tard, quoi. Donc il y a plusieurs chemins parallèles qui sont suivis, comme on est en collectif, ça permet de faire plusieurs choses en même temps.
Oui. Pour rejoindre ce collectif, il faut être soi-même ingénieur, avoir de grandes idées, ou c'est n'importe qui aujourd'hui qui est le bienvenu dans cette réflexion collective ?
C'est surtout des bonnes volontés. Nous on privilégie quand même, parce que dans la charte de valeurs de notre collectif, il y a en premier lieu le désir de l'écologie, de l'environnement, d'avoir des valeurs humanistes aussi. Et puis il y a en particulier les notions de bienveillance, de respect de l'autre, d'écoute, etc. Donc ça, ce sont les valeurs qu'on met en avant dans notre charte. Donc les gens qui nous rejoignent, c'est vrai qu'ils ont plutôt ces valeurs-là, ils ont plutôt ce désir de construire une autre société, et puis ils ont fait leur démarche personnelle, eux, quoi. Donc nous, on est ouverts à toutes les bonnes idées. Et alors effectivement, aujourd'hui, il y a plutôt des ingénieurs, parce que c'est mon livre a des aspects un peu techniques, donc c'est les gens qui ont accroché en premier. Mais il y a aussi des gens qui s'intéressent à l'écologie. Il y a Thierry Dubuisson qui est lui d'origine, qui était agrobiologiste, qui faisait de l'agrobiologie de la culture. Et il y a des gens de l'informatique, et puis il y a aussi des gens des relations, qui sont plutôt dans la relation humaine, quoi. Donc on ouvre vraiment à toutes les bonnes volontés qui ont des idées à partager pour faire avancer le projet, quoi.
Comment on vous contacte ?
Bien, on nous contacte, on a pris énormément de contacts sur les manifestations qu'on fait. On a eu beaucoup à Alternatiba. On en a eu aussi au Forum du Fraise, parce que j'ai participé au Fraise de l'an dernier, avant que le collectif se crée. Et plus récemment, au Forum du Fraise qui était à Toulouse de cette année, là, de 2015, où on a eu aussi énormément de contacts. Après, on a aussi des contacts par le site. Il y a des gens qui ont acheté.
Parce qu'il y a un site?
Ah oui, il y a un site internet, donc il faut absolument le citer, effectivement. Donc c'est www.eco-industrie-local.fr. Donc là, on a un petit peu, on explique toute notre démarche, on voit qui est dans ce collectif, et puis il y a un résumé aussi d'une synthèse du livre, etc. Et puis il y a le fameux parapluie, donc qui est assez typique aussi, parce qu'on a ouvert à la totale transparence. Qu'est-ce qu'il y a derrière le prix de ce parapluie, et surtout les parts qui vont dans l'économie réelle. Et là, on a un cas particulier, c'est qu'on fait 67% du prix du parapluie qui reste dans l'économie réelle du territoire. Donc ce qui est assez exceptionnel dans la fabrication des produits, surtout ceux qu'on achète en Chine, évidemment. Donc tout est visible sur notre site, et comment on s'organise et quels sont les projets, quoi.
Merci beaucoup, Luc Dando, eco-industrie-local.fr. Et merci pour ce début de mutualisation de matériel high-tech, parce que le journaliste aujourd'hui a oublié son magnéto, mais Luc Dando m'en prête un. Merci beaucoup.
Merci, au revoir à tout le monde.